12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Il n'y a pas d'âge pour écrire son premier roman. La preuve dans ce débat littérature où chacun des héros, vous le verrez, que l'on va rencontrer mène à sa façon une enquête. Nous nous penchons d'abord sur la première publication de Raphaël Red qui, à 27 ans, raconte le road trip initiatique d'une jeune femme dans le pays d'origine de son père. Le second premier roman est une fable à 70 ans. Son auteur, Denis Infante, nous raconte la quête d'une jeune renarde, Rousse, qui part à la recherche d'eau sur une planète en plein bouleversement.
Et on en parle avec vous, Céline Duchesnay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes productrice sur France Culture. On retrouve régulièrement votre chronique le dimanche à 15h dans l'émission Mauvais Genre. Et bonjour à vous, Joseph Gaudet.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Et nous commençons ce débat critique avec Adikou de Raphaël Red.
J'étais enfoncée dans le creux du canapé, à boire du cidre à la bouteille quand elle a appelé. C'était l'été et j'avais mes habitudes. Après le travail, je retrouvais un garçon blanc dans un bar où j'en embrassais un autre pour lui souhaiter bonne nuit. Puis je m'endormais avec l'homme pâle qui payait le loyer et je me réveillais sans lui. Je prenais mon petit déjeuner, je fumais des cigarettes et je buvais du cidre à la bouteille jusqu'à ce qu'il soit temps de mettre le pantalon et le polo avec le logo jaune.
La narratrice travaille pour une célèbre chaîne de fast-food que vous aurez reconnue. Quand du jour au lendemain, Adikou, qui semble vivre avec elle, prend une décision. Elle lui dit « Nique ça, fais tes valises, on s'en va ». Il fait chaud, l'été est lourd et Adikou a besoin de s'enfuir. Elle décide de retourner au Togo, le pays de son père dont elle ne sait pas grand-chose. Le Togo, elle y est pourtant déjà venue, notamment lors d'une tentative précédente de retour à la source. Celle-ci était engagée avec une ONG humanitaire. Mais là c'est différent. Les enjeux pour elle sont différents. Adikou, qui sait à peine prononcer correctement son nom, veut s'installer plus longuement, plus durablement dans le pays, tant qu'elle n'aura pas trouvé ce qu'elle y cherche. Car sa lignée est floue, son histoire familiale semble très trouble, alors qu'elle se sent, elle, en permanence, questionnée sur son ou ses origines. Céline Duchesnay, ce premier roman initiatique sur cette quête d'identité vous a-t-il séduit ?
Oui, alors c'est en effet un roman de l'enquête, un roman de la quête du mouvement, parce que on est en déplacement en permanence et j'ai trouvé très intéressant cette manière de passer d'un pays à l'autre, parce que comme vous venez de le dire, très vite dès les premières pages on se retrouve au Togo, mais en l'espace par exemple d'un paragraphe, tout à coup on est aux États-Unis, on se retrouve dans le sud des États-Unis et au départ on se demande qu'est-ce qui lie un petit peu tout ça. Alors, il y a cette narratrice, en effet, qui est là et qui semble ne pas aller très bien, avoir une sorte de fureur en elle. Et ce qui m'a vraiment bien plu, c'est qu'en fait, il y a deux êtres qui nous parlent. Il y a donc cette narratrice et puis une autre femme. On ne sait pas au départ qui est cette femme. J'ai même cru que c'était une véritable femme, que c'était peut-être sa compagne.
Je l'ai cru aussi.
Voilà, son amie.
Sa colocataire,
une amoureuse, on ne sait pas trop. Et puis tout à coup, on se dit, tiens, c'est peut-être une âme sœur. Et puis tout à coup, on se dit, mais est-ce que c'est pas une deuxième voix dans sa tête ? À quoi sert cette deuxième voix qui perpétuellement la questionne, la remet en question, la rassure, lui dit aussi de temps en temps qu'elle en fait un petit peu trop et donne son point de vue. Et petit à petit, on se dit qu'en effet, il y a deux voix qui dialoguent, que ces deux voix sont une seule et même personne, comme nous, quand on se promène, on peut avoir plusieurs voix qui peuvent tout à coup nous convoquer. Et je trouve que c'est ça la grande particularité, et ce qui m'a vraiment intriguée dans le roman, c'est qu'on ne sait pas toujours qui parle, on ne sait pas toujours où on est, dans quel pays on est, et on ne sait pas non plus si on est dans la réalité, dans ses pensées, dans une projection qu'elle fait du pays dans lequel elle est, et c'est cet enchevêtrement et de voix et de paysages intérieurs, de paysages extérieurs, qui, tout ça réuni ensemble, donne une sorte de matière dans laquelle il est bon de se plonger, sans parler de toutes les émotions qu'on traverse.
Effectivement, émotions et sensations. On va s'y plonger dans un instant. D'abord, on va se tourner il fallait que ça arrive, mon cher Joseph. Joseph Ghosn, est-ce que vous avez aimé, vous aussi, vous plonger, vous laisser vous perdre dans ce récit, effectivement, à plusieurs voix, et qui, parfois, ne nous donne pas vraiment la solution, effectivement, sur qui parle et qui raconte ?
Oui, j'ai vraiment bien aimé m'y plonger. Je ne suis pas certain d'en avoir apprécié l'intégralité de l'expérience, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ce conseil que j'ai beaucoup entendu de la voix d'éditeurs, pas forcément de romanciers, mais d'éditeurs qui disent souvent aux gens qui vont écrire les livres, qui leur disent faites dans votre histoire, insérez dans votre histoire une deuxième histoire, comme ça si la première histoire vous ennuie, vous pouvez vous consacrer à la deuxième. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans qui sont construits comme ça, où il y a deux histoires en parallèle, une petite histoire et une grande histoire. Même certaines séries sont comme ça. C'est un procédé narratif. Et là, j'ai l'impression que ces deux voix font cela, en fait. C'est-à-dire qu'à partir d'un même personnage, il y a ces deux voix qui dialoguent, ou en tout cas qui ont l'air de résonner, de se faire écho. Et donc, en ce sens-là, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Et surtout, ce que j'y ai trouvé, c'est qu'au fil du récit, de ce qui est raconté, énoncé et décrit, J'ai senti une tension entre quelque chose d'extrêmement physique, c'est-à-dire qu'il y a des descriptions qui sont vraiment sur le corps, les paysages, des choses très très extrêmement précises, et une introspection beaucoup plus formelle, assez pénétrante, etc. Donc j'ai l'impression que ces deux voix, ou en tout cas cette pluralité de voix, fait vraiment ça, une sorte de tension entre vraiment une physicalité, une recherche de la physicalité, et une forme de flux de conscience assez immatérielle.
Cette double voix, cette double narration, vous le voyez comme un exercice de style ou vous le voyez aussi comme quelque chose qui renforce effectivement une histoire qui, à l'origine, mais on va rentrer dans le détail, voilà, une quête d'identité, connaître ses origines, pour un premier roman, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, si je puis dire.
Ni l'un ni l'autre, en fait. Moi, je l'ai vraiment perçu comme une nécessité, en fait. À aucun moment, je me suis demandé qui était cette deuxième voix. Je ne sais pas pourquoi, mais d'emblée, je me suis dit, tiens, c'est la même personne qui est en train de se parler. Donc, quelle est la problématique derrière cela? Et à aucun moment, ça ne m'a posé de problème. Ça m'a au contraire guidé sur la piste de la recherche de l'identité et de la façon dont cette identité se construit, puisqu'on est en permanence, en tout cas la narration ramène en permanence à cette question de la dualité, du 50-50, comme le du moitié-moitié, du 50-50, comme le dit le livre assez régulièrement, c'est-à-dire que ce personnage est un personnage métissé, et donc sa couleur de peau entre en scène à chaque quasiment en permanence, et cette couleur n'est pas réellement définie, en tout cas elle passe, elle est perçue différemment selon les personnes qui sont autour d'elle. Elle-même décrit souvent des personnages comme selon leur couleur de peau. Donc il y a toutes ces questions là.
On l'a entendu d'ailleurs tout à l'heure dans l'extrait.
Absolument. Toutes ces questions font que finalement elle est elle-même double ou dédoublée en permanence.
Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'aussi cette question, ce questionnement sur le métissage, effectivement, intervient partout. C'est-à-dire que elle est étiquetée comme noire en France et comme blanche quand elle arrive au Togo. Donc toute cette question sur la couleur de peau, sur ces étiquettes qui lui sont collées en permanence et qui, au final, si j'ai bien compris, Céline Duchesne, c'est ça qui la pousse à fuir cette fureur dont vous parliez tout à l'heure, essayer de trouver effectivement des réponses à cette question qu'on lui répète et qu'on lui assène en permanence. Quelles sont tes origines? D'où tu viens?
Oui, d'où tu viens? Enfin, il y a plusieurs choses parce que elle part au Togo aussi. Parce qu'elle est à la recherche de son père. Il y a quand même un grand absent dans ce roman, c'est le père dont on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas pourquoi il est parti. À un moment donné, quand à chaque fois elle parle de lui, qu'elle finit par retrouver des gens qui l'ont rencontré, c'est qu'il court en paix. On dit toujours qu'il court en paix, donc on l'imagine dans quelle réalité, là encore, on ne sait pas. On sait qu'elle a les yeux du père, on sait qu'elle a le nom du père, puisque c'est une des premières choses qu'elle nous dit. Cette quête, qui est une quête sur ce que ça veut dire qu'être métisse en effet, mais est aussi une quête de l'origine, d'où je viens, qui est mon père, à quelle langue parlait-il, puisqu'elle-même ne parle pas la langue du père qui est Léoué. Elle découvre en étant au Togo que finalement sa famille est originaire du Ghana. Et il y a quelque chose assez initiatique en effet, où au départ elle arrive, c'est un professeur qui vient la chercher à l'aéroport, qui était un ami du père, et de fil en aiguille, au fur et à mesure, en rencontrant des gens, elle apprend un peu mieux, j'ai l'impression, à se positionner par rapport à cette couleur de peau en fonction du regard des autres. Parfois, ça lui est renvoyé violemment, mais parfois non. Et petit à petit, elle apprend aussi d'où elle vient, qui est le père. Elle finit même par retrouver le frère de son père, alors qu'elle avait son numéro de téléphone, mais elle, c'est comme si elle ne se sentait pas capable de l'appeler et qu'il fallait qu'elle passe par un certain nombre d'étapes pour finalement arriver dans le village d'origine.
C'est vrai que ces difficultés, elles sont présentes dès les premiers pas au Togo. Joseph Ghosn, notamment, effectivement, la langue qu'elle ne parle pas, Léoué, vous l'avez cité, elle est aussi bousculée par là d'où elle vient, c'est-à-dire ses habitudes bourgeoises, où elle découvre aussi un pays et une nouvelle façon de vivre, en quelque sorte, sa couleur de peau aussi, on l'a dit sur le métissage, et puis ce prénom, ce nom, qui effectivement est la prononciation qui est questionnée, d'ailleurs, dès la quatrième de couverture.
Oui, alors... C'est assez intéressant, c'est-à-dire que dans ces questionnements-là, moi je ne vois pas beaucoup d'originalité en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir déjà entendu toutes ces questions, d'avoir déjà lu des choses qui se rapportent à ces mêmes questions. C'est-à-dire une fois que vous avez été déplacé, d'où vous venez, où est-ce que vous retournez, comment vous enquêtez sur l'endroit d'où vous venez, quelles sont vos véritables racines, est-ce que vous êtes mieux ici ou là-bas, etc. Il y a des pages d'Edouard Saïd qui parlent de ça. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont parlé de ça. Ce qui m'intéresse au-delà de ces questions formelles, même la question du nom finalement, la façon dont on prononce votre nom dans d'un pays ou dans l'autre, elle a été pas mal travaillée, je crois. Ce qui m'intéresse, c'est finalement la façon très formelle dont elle va s'attacher dans son écriture à tenter de comprendre ça. Il y a déjà ce dont on a parlé, c'est-à-dire ce dédoublement de la voix.
Elle tue, etc.
Et ensuite, la façon dont le récit avance dans l'écriture même. Et moi, j'ai eu l'impression que plus on avançait vers la religion, vers la fin, plus elle s'emparait de quelque chose d'un peu plus poétique. Même d'un peu plus émotionnel que la simple description au début qui peut être un peu rébarbative, un peu difficile à accrocher. Et donc moi j'aime beaucoup la fin, j'aime beaucoup les dernières pages où je trouve que vraiment là elle s'affranchit de choses et son écriture va vers quelque chose de vraiment littéraire et de vraiment très très poétique et où je me dis tiens, il y a beaucoup de questions qui sont posées dans ce livre qui sont abordées de façon peut-être un peu académique finalement dans leur fond, mais qui vont peut-être pousser ailleurs, dans d'autres livres, et autrement, et de façon beaucoup plus prenante.
Céline Duchesne, l'écriture sensorielle dont
voilà,
vous parliez tout à l'heure,
c'est vraiment ce qui m'a... Je suis assez d'accord avec Joseph, hein, mais en effet, cette divagation poétique qu'elle nous propose, qui se renforce au fil des pages, et qui finit de manière, je trouve, assez éblouissante, parce qu'une fois encore, on ne sait plus, on a un certain nombre, on peut raconter l'histoire avec un certain nombre d'événements, elle a été au Togo, elle a été jusqu'au Ghana, elle a fait ceci, elle a fait cela.
C'est ce road trip, voilà.
Oui, mais c'est pas ça qui fait en effet la force de ce roman, c'est cette écriture et qui est une écriture en effet qui paraît tout à fait prometteuse et on a envie, comme souvent avec les premiers romans, de dire bon ok, maintenant on a eu le premier roman à la première personne du singulier, même si là la structure est plus complexe que ça, quelle va être la suite, s'affranchir justement de ces questions dont on a peut-être besoin de se débarrasser dans un premier livre pour pouvoir après emmener les futurs lecteurs et lectrices dans d'autres sphères, d'autres airs, et en tout cas ce qui est certain avec cette langue et ce maniement de l'écriture qui est assez très sensoriel, presque épidermique par moment.
Oui, on sent du corps, Joseph, tout à l'heure.
Oui, on sent vraiment ça, c'est-à-dire c'est comme si ce livre était une façon pour elle de prononcer un divorce avec la réalité à laquelle on la renvoie, même avec son corps, parce qu'il y a beaucoup de descriptions de son corps, qu'est-ce que ce corps, etc. Et finalement, une fois que ça s'est mis de côté, ou en tout cas que ces questions-là ont été énoncées, pas forcément réglées, mais énoncées, de passer à autre chose. Et c'est vraiment les dernières pages du livre mènent vraiment vers ça. En tout cas, c'est le sentiment vraiment que j'ai eu et qui m'a tenu au fait, me dire il y a un ailleurs.
Le premier roman de Raphaël Redd s'intitule Adikou et il est disponible chez Grasset.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent de Roux sous les beaux habitants de l'univers. C'est signé Denis Infante et c'est publié chez Tristram.
Aucune pluie n'était plus tombée depuis de trop nombreuses lunes. Et dans Bois de Chais, comme partout alentour, Vivant souffrait de grande soif. Mobile autant qu'immobile, ailes, pattes, nageoires, racines, radicelles, tous enduraient manque d'eau. Manque de cet insaisissable et pourtant vital élément qui n'avait ni forme, ni voix, ni couleur. Et si eau était vivante, nul jamais n'en avait surpris moindre preuve.
Bienvenue dans le bois de Chais, où nous faisons donc connaissance avec Rousse, une jeune renarde à robe flamboyante, libre et solitaire. Ici, l'été est trop sec, trop brûlant, et comme on le lit au pied de la première page, sans eau, sans pluie, mort assurée. Rousse prend donc elle aussi une décision importante dans sa vie, non sans appréhension, quitter ce bois de Chais où elle vit avec quelques amis fidèles pour partir donc à la recherche d'eau, de zones humides. Une quête pour survivre qui se transforme en quête de conscience pour cette renarde qui va affronter des obstacles, évidemment, il y a un peu de suspense, et découvrir des mondes différents et pourtant assez semblables. Joseph Ghosn, qu'avez-vous pensé de ce roman qui est une fable, faut bien le dire?
Alors, je pourrais...
Ah, vous n'êtes pas d'accord, si?
Ah, si, si, ah, je suis d'accord. je suis d'accord et pas d'accord aussi.
Alors, allez-y.
je pourrais vous dire que j'ai été vraiment pris et qu'il y a... On a tout de suite l'impression d'être dans une forme de chef-d'œuvre, en quelque sorte, parce que c'est il y a quelque chose d'extrêmement réussi, d'hyper maîtrisé. Mais j'ai même pas envie de le catégoriser comme ça, parce que je trouve que c'est un livre qui est assez indéfinissable. Même l'idée de la fable, elle rend la chose assez banale et presque un peu trop facile, enfin assez facile. Moi, j'ai été vraiment dès le départ pris par le plaisir de la lecture. Un plaisir d'abord qui passe d'abord par une forme de mystère et d'intrigue, c'est-à-dire que la façon dont le livre est écrit est extrêmement surprenante. On va en parler, mais il n'y a pas d'article défini. Voire pas d'article indéfini. Donc il y a des manques, il y a des choses qui manquent. Donc ça crée un langage immédiatement et vous rentrez très très vite dans ce langage-là et vous y rentrez d'autant plus facilement que la façon dont c'est écrit vous happe, et je pense notamment dans les premiers chapitres à ce moment où Rousse est prise quasiment en tenaille par une bande de loups qui vont la dévorer, la massacrer. On est vraiment, j'étais vraiment pris par ça, c'est-à-dire par cette violence, par ce suspense, que va-t-il advenir?
La tension.
On est immédiatement avec elle. On se demande ce qui va se passer. Et là on enchaîne. On est pris. On veut savoir ce qui va se passer, etc. Donc il y a immédiatement quelque chose qui vous happe. Ensuite, vous découvrez avec elle ce territoire et cette cartographie, c'est-à-dire où est-ce que ça se balade, qu'est-ce qui est construit, qu'est-ce que cette écriture va construire comme espace. Et moi, j'ai aussi immédiatement pensé, au-delà de la littérature, à des séries, en fait. À des séries, notamment, j'ai pensé à des séries comme The Last of Us, des séries de zombies, des séries elles-mêmes tirées de jeux vidéo, qui sont
de survivalisme,
mais qui sont aussi des façons d'explorer des territoires post-apocalyptiques. Et que se passe-t-il quand l'humanité, en gros, n'est plus là ou qu'elle est en train de disparaître? Donc moi, j'ai adoré ce livre pour ça, parce qu'il m'a vraiment pris par sa littérature, par sa façon d'être écrit, et aussi par toutes les images, toutes les choses auxquelles il renvoie.
On va détailler effectivement ce qui se passe, dans quel univers on est, les rencontres de Rousse, qui est cette Rousse, mais d'abord, Céline Deschenais, peut-être sur la forme, pas si évident de rentrer dedans pour les premières pages, et une fois qu'on est rentré, qu'on a compris cette structure de phrase qu'a expliqué Joseph, on se laisse porter.
Oui, c'est vrai qu'il faut accepter de lire des phrases sans article défini, donc sans les fameux le-la-lé, ce qui donne quelque chose un petit peu bancal au départ, mais qui en fait devient une véritable jouissance de lecture, parce que c'est cette petite différence qui nous fait nous mettre dans la peau de renarde, finalement. Ce décalage, parce que comment pourrait parler un renard ou une renarde, après tout, on n'en sait pas grand-chose, mais si jamais il devait parler, on pourrait imaginer que ce petit décalage nous mettrait presque dans un rythme de marche aussi. Le fait qu'il manque quelque chose, on peut buter sur les mots et hop, se rattraper. Et comme c'est un roman, alors j'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai dit pour Adikou, mais c'est aussi un roman du mouvement, de la marche, puisque c'est une grande épopée où on va suivre cette renarde dans un certain nombre d'aventures. Le fait qu'il manque ces articles-là et qu'elle passe son temps à marcher, c'est un personnage qui est en mouvement, en perpétuellement. Et alors, vous, ça vous a fait penser à des séries de zombies. Moi, ça m'a fait penser à la littérature médiévale que j'adore, parce que on se retrouve avec aussi un des principes. Alors, je suis d'accord avec Joseph, on ne peut absolument pas mettre ce roman dans une catégorie. Si on dit fable, ce n'est pas seulement une fable. Si on dit zombie, ce n'est pas si on dit médiéval, ça n'est pas du médiéval. Mais moi, ce que j'ai retrouvé et ce que j'adore dans la littérature médiévale, notamment avec tous les romans de chevalerie, c'est que l'espace, à chaque espace, dès qu'il y a une frontière, dès qu'on rentre dans un bois, qu'on ne voit plus le ciel, dès qu'on traverse une rivière, dès qu'on est sur une lisière, c'est d'ailleurs un des titres aussi d'un des chapitres. Il va se passer quelque chose, il y a une aventure, il y a une rencontre, et cette rencontre permet au final de se dépasser et d'en apprendre un petit peu plus sur soi-même. Parce que l'histoire de Renarde, au départ, elle part parce qu'il n'y a plus d'eau et qu'elle se dit la vie sera peut-être meilleure ailleurs, mais c'est pas du tout ça le propos. Propos, je ne sais pas si je peux le lire tout de suite.
Allez-y.
Je regarde, Nicolas.
Allez-y,
oui. Enfin, je ne vais pas dévoiler.
Vous êtes libre
non plus
dans cette émission.
Je ne vais pas tout dévoiler, mais on comprend très vite, et d'ailleurs elle le dit elle-même très vite, que finalement, elle ne recherche pas de l'eau pour boire et pour avoir un contexte de vie qui lui soit plus agréable. Elle est en quête, c'est une quête totalement existentielle. Elle est en quête de savoir, de connaissance, et à travers un certain nombre de personnages qu'elle va rencontrer, dont deux maîtres, donc il y a le maître corbeau et la maître maîtresse éléphante, à travers ces rencontres-là, elle va apprendre de plus en plus de connaissances et va devenir une sorte de grand sage. Et c'est là aussi où ça m'a fait penser à la littérature médiévale, toute proportion gardée, une fois de plus, parce que c'est une forme vraiment assez unique.
Le titre du roman, c'est « Rousse ou les beaux habitants de l'univers », une formule empruntée à Jean Giono, qui est d'ailleurs citée en exergue. Dans tous les livres actuels, on donne, à mon avis, une trop grande place aux êtres mesquins, et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Alors, qui sont ces beaux habitants? Qui sont les habitants de cet univers où on est? Apparemment, Joseph Gaune, il n'y a plus d'humains sur cette terre.
C'est un peu l'impression qui se dégage de la lecture. Il n'y a plus d'humains et effectivement, comme on le disait, la langue souligne ça, c'est-à-dire ce qui manque montre bien qu'on est dans une forme nouvelle de langage et de façon de parler et de penser. Et comme on est constamment dans la tête, dans les pensées de Rousse, on ne voit pas d'humain. Et ce qu'elle rencontre, notamment avec les loups que je disais tout à l'heure, et puis ça rencontre immédiatement à ce moment-là aussi avec l'ours. On est vraiment dans ce conte presque animal, sauf que on voit très vite qu'on pourrait absolument remplacer ces animaux par des êtres humains, en fait, des êtres humains en quête, et que au-delà de la sagesse, moi, ce qui m'a aussi frappé, et ce qu'elle dit à la fin, c'est qu'elle est en quête de quelque chose qui lui fasse dépasser sa propre peur, en fait. Donc la propre peur d'être dans l'univers et d'exister.
Et d'ailleurs, il y a une rupture à un moment donné dans ce roman, là aussi, de narration. On passe du « elle » au « je » aussi, où effectivement, il y a un changement important, puisque l'auteur donne le « je » à ce personnage principal, qui est donc Rousse, cette renarde. Vous avez employé le mot tout à l'heure, Joseph Gaune, « post-apocalyptique ». Ça vous parle évidemment, Céline Duchesnay, ce style et ce genre de récit.
Oui, sans pour autant que ce soit, je dirais, culpabilisateur pour nous autres humains qui avons inventé la bombe atomique, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui a ravagé cette Terre. Vous dites, Joseph, qu'il n'y a pas d'humains. Il y a quand même ces fameuses faces plates.
Je l'ai dit aussi.
Ouais, c'est nous, c'est-à-dire des squelettes, il reste des traces, des os. Donc, on se rend bien compte que l'humanité est passée à travers une catastrophe. Mais ce que moi, j'ai apprécié, c'est que ça pourrait être totalement anxiogène, on pourrait se dire, mais mon Dieu, vraiment, on n'est pas bon à grand chose, nous, sur Terre. Mais là, il y a quelque chose presque de l'ordre du réconfort de voir ces animaux et de se dire, après tout, s'il y a une catastrophe et qu'après, la Terre est peuplée de renards et de tous ces compagnons, c'est pas toujours des compagnonnages faciles, il y a pas, c'est pas une fable gentillette, c'est pas du tout gentil, c'est pas méchant non plus, mais on se dit que, pourquoi pas. Et moi, la phrase que j'adore, qui revient aussi régulièrement, elle dit régulièrement, j'enroule mes pattes de ma queue touffue. Et j'ai beaucoup aimé aussi le côté moelleux, à hauteur aussi, à hauteur de renard, de tout ce qu'elle voit, les sensations, la manière dont elle aborde aussi l'humanité à travers différents sens, notamment son museau, parce qu'elle hume à travers son museau, elle voit ce qui va arriver, elle anticipe les choses. Et on se dit, ça pourrait peut-être être une autre manière, tiens, transformons-nous tous en renard, même pas renard, il y a un petit renard à un moment donné qui a une utilité, vous le verrez bien, mais Rousse est un personnage extraordinaire.
Ce n'est pas un... Allez-y, Joseph, pardon.
Oui, par rapport à ça, dans la lecture, il y a un sentiment de perte parfois. On est vraiment perdu par rapport à ce qui se déroule, à l'avancée, au rythme. Mais on est, et je trouve qu'on est toujours rattrapé par ces détails sur justement la délicatesse et ce dans quoi on peut se lever en quelque sorte quand on est à ce niveau effectivement de regard ou à ce niveau de violence et à ce niveau de danger autour de soi. Et ça, j'ai trouvé ça très très précieux en fait comme leçon finalement par rapport aux situations de danger qu'on peut vivre.
Ce n'est pas un roman pour les enfants. Il y a des animaux.
Non, c'est une question qui se pose.
Ouais, ah bon.
C'est une question qui se
Vous
pose.
Avez pas tranché.
Je me suis demandé si on pouvait le lire à des enfants ou avec des enfants.
À partir de quel âge?
À partir de quel âge? Oui. Voilà, c'est la question. Mais à des, oui, on peut le lire.
On peut le lire. Après, c'est pas une lecture facile pour les enfants, justement à cause de cette langue. Mais oui. Tout dépend de l'âge des enfants et puis aussi de.
Je pense que c'est un livre qu'on peut lire avec les enfants.
Oui, mais c'est un livre jubilatoire pour les adultes aussi.
Oui, absolument.
On parle de premier roman dans ce débat critique. Je disais, il n'y a pas d'âge pour écrire son premier roman, puisque Denis Infante a 70 ans. Il a beaucoup écrit depuis une quarantaine d'années pour le cinéma et pour le théâtre. Il a toujours écrit, dit-il, de la poésie. Puis il a écrit des romans, il s'est lancé et publié à compte d'auteur. Là, il faut peut-être aussi souligner le travail de cet éditeur, Tristram, oui. Parce qu'il a quand même, Denis Infante, envoyé son manuscrit, merci de m'aider, Géraldine, à une quarantaine d'éditeurs avant d'être repéré. Donc voilà, il faut aussi souligner le travail des éditeurs.
Il faut vraiment souligner le travail de Tristram depuis très longtemps. Et Tristram, je crois, a cette particularité de publier des livres qui arrivent par la poste. Si j'ai bien compris, je crois que j'ai lu ça. Ils disent que un seul de leurs livres qui a été publié n'est pas arrivé par la poste. Et donc ils reçoivent ça, ils lisent, et c'est aussi l'effet que ça fait. En fait, ce texte, il fait cet effet-là. Vous le lisez, vous rentrez dedans et vous êtes complètement pris. Et je comprends qu'ils aient eu envie de le publier.
Et la couverture est magnifique parce que Rousse est sur la couverture.
Une ode à la poste.
Une ode à la poste. et c'est une ode à cet éditeur important.
Ah, surtout ne pas envoyer de manuscrit par mail.
Jamais.
Rousse ou les beaux habitants de l'univers de Denis Infante, c'est deux éditions Tristram. Donc merci à tous les deux. Céline Duchesne est productrice sur France Culture. On vous retrouve ce dimanche à 15h dans l'émission Mauvais Genre. Joseph Ghosn, merci. On vous lit dans Madame Figaro et on vous met bien sûr toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission où vous pouvez réécouter ce débat critique mais aussi tous les autres.